Alors on continue le texte en route vers l'éveil. J'espère que tout le monde est en route. Bon, s'il y en a qui sont arrivés, dites-le. Hein. Mais... Et donc nous sommes dans le Mahayana, le grand véhicule, et nous en sommes à la troisième strophe. Rappelez-vous, hein, la première strophe des 37 pratiques de Bodhisattva, c'était vraiment l'hommage au maître de la lignée. La deuxième strophe, vraiment importante, c'est « Voulez-vous vraiment réaliser l'éveil ?» Au fait, vous avez répondu à cette question. Oui. Et pas demain, pas après-demain, hein, comme disait Khandro Rinpoche à Paris il y a 15 jours, c'est tout de suite qu'il faut le réaliser. C'est tout de suite. Et ça ne peut se réaliser que maintenant. Mais faut-il encore le décider et vraiment s'engager à le réaliser là, tout de suite. Quand cette détermination est vraiment claire dans notre esprit, alors on peut commencer à se poser la question, comment faire? Et c'est le but de la troisième strophe. Je vous la lis, je sens qu'il faudra la lire deux fois, parce qu'en général, tout le monde fait « comme ça. Hein? Alors... Maintenant que nous avons obtenu le grand vaisseau du loisir et des moyens si difficiles à trouver, nous, ainsi que tous les êtres sensibles, devrions traverser l'océan de l'existence cyclique. Dans ce but, nous devrions écouter, réfléchir et méditer jour et nuit. Faire cela sans tomber dans la paresse est la pratique du Bodhisattva. Je vous la relis. Maintenant que nous avons obtenu le grand vaisseau du loisir et des moyens, si difficiles à trouver, nous, ainsi que tous les êtres sensibles, devrions traverser l'océan de l'existence cyclique. Dans ce but, nous devrions écouter, réfléchir et méditer jour et nuit. Faire cela sans tomber dans la paresse est la pratique du Bodhisattva. Donc là, le travail commence. Et pour faire ce travail, comme dit le texte, eh bien, nous avons besoin d'un grand vaisseau. C'est la précieuse existence humaine. Alors les anciens là, vont dire, ça y est, on est reparti pour une demi-heure sur la précieuse existence humaine. On sait absolument par cœur cet enseignement. Et pourtant, pourquoi tous les maîtres nous le rappellent de l'importance, nous rappellent l'importance de ce qu'on appelle cette précieuse existence humaine. Et si vous voulez vraiment étudier, et ce qui est très bien hein, de le faire, mais si vous voulez vraiment étudier ce qu'on appelle la précieuse existence humaine, là vous étudiez les 8 libertés, les 10 acquisitions, les 5 non-obstacles, etc. Bien, ça vous le trouvez dans la plupart des textes qui traitent vraiment de cela. Mais je crois que une chose importante, c'est de vraiment intégrer cette notion de précieuse existence humaine et que chacun en fasse vraiment l'expérience. Il faut constater qu'il n'y a rien de normal, qu'il n'y a rien d'ordinaire et que pour pratiquer le dharma, eh bien, il faut rassembler tout un ensemble de conditions qui sont personnelles, mais qui sont aussi liées aux circonstances, liées à l'environnement, et que ces conditions sont vraiment nombreuses. Il ne s'agit pas d'en réunir deux ou trois seulement, mais qu'elles sont très nombreuses, et surtout qu'elles sont très fragiles, puisqu'elles changent d'instant en instant. Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, ou si ce raisonnement n'a pas un impact sur votre esprit, prenez le temps de revenir sur cette réflexion, et prenez une feuille de papier et faites le listing eh bien, de tout ce qui vous est nécessaire ce soir, par exemple, pour pratiquer le dharma, pour pouvoir pratiquer le dharma. Et vous allez voir que la liste eh bien, peut être très longue, quoi. Et amusez-vous ensuite à retirer deux ou trois de ces conditions dans la liste. Et dites-vous, si je n'ai plus ces trois conditions, est-ce que ça m'est toujours aussi facile de pratiquer le dharma, de le rencontrer, de le mettre en pratique et de le suivre? Et vous verrez, vous verrez. Faites le test. Et amusez-vous, après, vous replacez ces trois conditions, vous en retirez trois autres. Eh bien, vous verrez que là aussi, ça coince. Voire même que c'est impossible, eh bien, de pratiquer le dharma si ces trois conditions ne sont pas présentes. Et dites-vous alors, mais ces trois conditions, il n'y a rien de stable, il n'y a rien de durable, il n'y a rien d'éternel dans le fait qu'elles soient réunies. Et là, on commence à considérer, à prendre vraiment en considération, eh bien que si ces conditions-là, ce soir, demain, elles peuvent ne plus être réunies, et ça, regardez, observez autour de vous. Hein. Dernièrement, là, le week-end dernier, j'étais dans ma famille. Mon frère m'a dit, eh ben voilà, on a un meilleur copain et sa femme. Leur fille de 21 ans s'est levée, elle est tombée, 3 jours de coma, elle est morte. Comme ça. Rien ne laissait imaginer qu'elle puisse, 3 jours après... disparaître. Alors, sans parler de la mort, mais regardez la fragilité de ces conditions. Observez vos conditions personnelles. Vous êtes encore en bonne santé, vous n'êtes pas encore trop âgé, vous n'êtes pas trop jeune. Vous avez toutes vos facultés physiques, mentales, pour pouvoir approfondir votre étude, y réfléchir, et entraîner votre esprit à appliquer. Mais encore faut-il que nous soyons dans un pays où le dharma est enseigné, où il est présent. Il y a 50 ans de ça, un colmarien voulait pratiquer le dharma, c'était quand même plus compliqué qu'aujourd'hui, quoi. Et il n'y a que 50 ans. C'est pas il y a 5 siècles. Hein, c'est vraiment assez nouveau, quoi. Donc voilà, l'ensemble de ces conditions, quand on y réfléchit, mais profondément, quand on essaie d'intégrer toutes ces conditions nécessaires à la pratique du dharma, mais ça fait naître dans notre esprit la compréhension qu'elles sont précieuses, et qu'elles sont nécessaires, et que surtout, eh bien, elles ne sont pas stables, et que si je les ai là, mais qu'est-ce que je vais en faire? C'est pourquoi la fin de la strophe dit... Hein, faire cela sans tomber dans la paresse est la pratique du bodhisattva. Et alors cette paresse, il y a un nouveau livre hein, de Rinpoche qui vient d'être traduit en français. C'est Chevaucher la tempête. Chevaucher la tempête. Et donc Rinpoche développe un texte que Patrul Rinpoche a donné comme enseignement sur les maras, ce qu'on appelle les maras, c'est-à-dire en fait les obstacles à la pratique. Et il parle de la paresse. La paresse, c'est un des pires maras, quoi. C'est un des pires obstacles. Et alors, il ne faut pas qu'on se dise, nous, occidentaux, « Oh, je n'ai pas trop de paresse, parce que 2 heures d'enseignement, mais je tiens, je ne suis pas comme les Tibétains qui pioncent dès qu'ils sont assis, soit en méditation, soit pour écouter un enseignement. » Mais on n'a pas cette forme de paresse, mais on en a une autre. Et on en a une autre qui est peut-être encore plus difficile à aborder. C'est notre esprit qui est toujours attiré par quelque chose d'extérieur et qui n'a jamais le temps de prendre soin de lui-même, d'observer comment il vit, ce qu'il vit, comment il réagit dans telle ou telle situation. Nous n'avons pas le temps parce que notre esprit est toujours pris par la dernière expo, par le prochain voyage, par le prochain article qu'il faut acheter, par ci, par ça, etc. Et on peut passer en fait toute sa vie à être dans cette espèce d'éclatement, mais qui est une autre forme de paresse. Alors qu'on a l'impression d'être très vif, très actif, et on s'intéresse à plein de choses. Oui, on s'intéresse à plein de choses. Comme souvent on dit quand on a fait quelque chose, ou vu quelque chose, ou entendu quelque chose, on dit « Ah, c'était vraiment intéressant ». Ouais, on en fait quoi après ça? C'est une accumulation de savoir? Mais ça ne transforme rien en l'esprit. Alors les occidentaux, on est bon pour accumuler. Extérieurement, intérieurement. Mais alors est-ce que ça transforme l'esprit? Vous savez, il y a à peine 15 jours de ça, j'étais à Paris parce que je suis allé inviter Khandro Rinpoche à Luce. C'est tellement embêté qu'elle m'a dit, j'y pense pour 2017. Bien. Mais elle a donné un enseignement. Et vous connaissez un petit peu la méthode pédagogique de Khandrou Rinpoche. C'est quand même, on va dire que c'est direct, pour ne pas dire autre chose. Hein? C'est quand même direct, son enseignement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une femme, Rinpoche. Et il y avait, je ne sais pas, une bonne centaine de personnes, peut-être 200 personnes. Et elle disait, elle nous regardait, puis elle disait, vous avez pris refuge il y a plusieurs années. Donc, vous avez passé déjà plusieurs heures en méditation sur votre coussin. Pas de changement. Vous êtes prosterné des milliers de fois. Pas de changement. Vous avez récité des centaines et des centaines de milliers de mantras. Pas de changement. Ben, je suis désolé, vous n'êtes pas pratiquant bouddhiste. Ce que vous faites, c'est du carnaval. Et elle a utilisé ce mot. C'est du carnaval, pourquoi? Oui, parce qu'on se planque derrière un masque, derrière un personnage, derrière certains habits, et on passe toute sa vie à jouer un personnage. Et on croit qu'on est... Alors elle disait, ah, ça vous jouez de la cloche, vous jouez du damaru, vous savez faire telle chose, des tormas comme ci, des tormas comme ça, etc. C'est carnaval. À partir du moment où ça ne transforme pas notre esprit, nous ne pratiquons pas le dharma. Elle a été, mais alors, très claire là-dessus, quoi. Elle a dit, si ça transforme votre esprit, vous êtes pratiquant du dharma. Si ça ne transforme rien du tout, c'est mascarade, quoi. Voilà. Et ça, il faut absolument de temps en temps qu'on se souvienne de ça. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons vraiment savoir ce qui se passe dans notre esprit. Rinpoche, à un moment donné, il en parle de ça. Vous allez voir ce qu'il dit du savoir intellectuel qu'on accumule en Occident. Vous allez voir ce qu'il dit de ça. C'est intéressant. Mais en tout cas, cette précieuse existence humaine, il faut absolument se dire, mais à quoi sert-elle? Qu'est-ce qu'elle me permet de faire, d'accomplir? Quel est le chemin que je peux accomplir à partir du moment où j'ai toutes ces conditions? Voilà, donc ce n'est pas une réflexion, il ne faut pas se dire « oui, bon, ça j'ai déjà entendu ça 50 fois, c'est pour les débutants ». Vous savez, Dalai Lama vient en septembre, je commence à entendre des personnes qui disent « oh, mais l'initiation de Chenrezig, c'est l'initiation de Chenrezig qui va donner, l'initiation de Chenrezig, je l'ai déjà reçue », d'un air de dire « mais c'est pour les petits bleus du Dharma, quoi, moi je suis... » tellement au-dessus de ça, etc. Idem pour les enseignements, idem pour le thème de l'enseignement. Moi, j'étais ravi que Rinpoche, en fait, donne le thème de son enseignement à Luce 2 semaines seulement avant d'arriver. Parce qu'il y en a qui choisissent de venir selon l'enseignement. Mais les personnes qui ont ce genre d'attitude, elles n'ont rien compris au cheminement spirituel, elles n'ont rien compris à la démarche du dharma, quoi. Parce que qui ici n'a pas fait l'expérience, depuis quelques années que vous êtes dans le dharma, d'entendre encore et encore le même enseignement, et tout à coup, paf, on se dit, mais il y a quelque chose qui s'ouvre, et une compréhension qui se fait dans notre esprit. Alors que je connais par cœur cet enseignement, mais jamais je n'ai fait cette expérience-là. Et c'est très curieux, plus loin, il y a Rinpoche qui explique, non, dans l'introduction de ce texte, Rinpoche explique que plus il avançait dans les enseignements du Mahamudra et du Mahati, plus il se disait, ouais, c'est très bien, mais alors vraiment, il faut que je revienne aux bases. Et plus il intégrait les bases, et bien plus, en fait, il absorbait et il intégrait le Mahamudra. Donc, il n'y a rien pour débutants. Faites l'expérience, prenez un bouquin que vous avez lu il y a 10 ans et relisez-le maintenant, avec vos 10 années de pratique, etc. Bah, vous allez avoir une compréhension tout autre de ce même sujet. Rinpoche Rinpoche n'a toujours pas défini le thème du séminaire d'été au Portugal, la première semaine d'août. L'autre jour, je l'ai vu à Genève. Je lui dis, mais alors, Rinpoche, le séminaire, le summer camp. Oh oui, il faut que j'y pense, il faut que j'y pense. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il dit, il faut que j'y pense. Et voilà, on verra. Donc, le précieux corps humain, dit Rinpoche, est celui que nous possédons maintenant. Et il est important de l'apprécier. La première étape dans la quête de la vérité est de nous regarder nous-mêmes et de nous voir tels que nous sommes maintenant. La plupart du temps, nous nous sous-estimons et nous sous-évaluons notre situation. C'est une source de problèmes majeurs parmi les êtres humains. D'habitude, nous attendons avec impatience quelque chose d'autre qui satisfera, croyons-nous, nos besoins et nos désirs. Nous pensons, une fois que j'aurai cela, tout sera merveilleux et à partir de là, je serai heureux. Nous nous tournons rarement vers nous-mêmes en disant « Je suis si heureux maintenant. Ce que j'ai est merveilleux. » À ce sujet, rappelez-vous ce que Rinpoche a dit à Luce quand il a parlé, par exemple, de la santé. Le fait d'être en bonne santé, mais ça n'émeut personne le matin quand on se réveille. Hein. Mais alors le jour où ça commence à coincer au niveau des articulations, ou quand on commence à se lever, on se dit « Ouh, là, il y a les années qui commencent à se faire sentir. » Ou alors que l'on est malade, ben on commence à apprécier le fait d'être en bonne santé. C'était quelque chose de précieux, quoi. Et pourtant, ça paraît tellement ordinaire, tellement banal. Mais le fait d'être en bonne santé, il faut apprécier. Et il faut l'apprécier, mais à chaque instant. Parce que rassurez-vous, ça ne va pas durer. Un jour, ça va coincer. Mais si on ne l'apprécie pas, ben, qu'est-ce qu'on en fait de cette bonne santé? Et c'est ce que disait un lama de Kagyuling, un lama bhoutanais, quand il est arrivé en Occident, il a dit, mais la chose la plus forte qui l'a frappé, c'est le manque de contentement chez les Occidentaux, quoi. Et pourtant, nous avons des conditions quand même pas parfaites, parce que c'est le samsara, mais quand même des conditions nettement supérieures à la majorité de la population qui vit sur cette planète, quoi. Est-ce qu'on l'apprécie vraiment? Mais si on l'appréciait autant, pourquoi est-ce qu'on fait tous la gueule du matin au soir, quoi? On tire une tête, mais alors, en Occident, c'est quelque chose. Écoutez, au moins, soyons détendus, un peu moins stressés et plus souriants, quoi. Mais c'est parce que tout simplement, eh bien, on n'apprécie pas ce que l'on a. Et ça, il y a un travail à faire. Le travail spirituel, ce n'est pas juste à attendre des bénédictions et puis que par miracle, tout se passe. Il y a un travail à faire. Il y a à apprécier tout ce qui nous est positif, agréable, confortable. Mais justement, confort, je crois qu'en Occident, on confond deux choses. La notion de confort et celle de bonheur. Et quand Rinpoche Rinpoche était à Luce, il y a la télé locale qui est venue l'interviewer, et la journaliste lui a posé cette question, « Qu'est-ce que vous pensez des Européens ?» Et Rinpoche a dit, « Bon, les Européens font partie de l'Occident, donc qu'est-ce que je pense des Occidentaux ?» Et il a dit, « Parce que je pense des Occidentaux, c'est un attrait incommensurable pour le matérialisme. Notre esprit est toujours fasciné par la technologie et par le matérialisme. Et pourtant, nous ne sommes pas plus heureux, voire peut-être moins heureux, que beaucoup de peuples qui, matériellement, ont 100 fois moins que nous avons. Alors pourquoi? Parce que je crois qu'on fait la confusion entre bonheur et confort. Technologie, le matérialisme, oui, c'est agréable et ça apporte du confort. Et ça, on ne peut pas le nier, quoi. Mais est-ce que ça apporte le bonheur? Pas sûr, hein. Vraiment pas sûr. Et souvenez-vous l'histoire que Rinpoche a racontée à Luce, hein, l'histoire de cette journaliste américaine qui est allée au Bhoutan pour vérifier si vraiment les Bhoutanais étaient heureux, quoi. Et en fait, pourquoi ils sont heureux? Parce que dans les réponses qu'elle a reçues, c'est parce que du matin au soir, ils pensent à la mort. et vous dites ça aux Occidentaux, déjà qu'ils font la gueule, mais alors ils en tirent encore une, beaucoup plus, si vous parlez de ça. Et pourtant, oui, il n'y a rien de morbide de penser à ça. Hein? Puisque de toute façon, c'est la seule réalité que nous ayons, quoi, dont on est sûr. Hein? Voilà. Mais parce qu'on solidifie tout, on cristallise tout, on veut que les choses impermanentes soient durables, on veut que eh bien, la jeunesse reste là, que la maladie n'apparaisse pas, etc., etc. Mais non, ça c'est impossible. Donc cela nous cause beaucoup de problèmes, dit Rinpoche. Parce que si nous ne pouvons pas apprécier ce que nous avons, ça pourrait tout aussi bien ne pas être là. Comme nous n'y faisons pas attention, nous le gâchons, tout simplement. C'est ce que nous faisons d'habitude. Nous pouvons avoir beaucoup de bonnes choses, mais nous les tenons pour acquises et nous ne voyons pas leur valeur. C'est seulement quand nous les avons perdues que nous apprécions pleinement ce que nous possédions, mais c'est un peu tard. Quand nous nous rendons compte que nous avons raté l'objectif, nos remords s'ajoutent à notre opportunité gâchée. Donc parmi les différents types d'existence, c'est l'existence humaine qui offre la plus grande opportunité. Un être humain possède un potentiel formidable. Nous avons un grand nombre de qualités qui rendent notre existence bien meilleure que celle des animaux. Nous sommes intelligents et capables de communiquer. Nous pouvons réaliser beaucoup de choses pour nous-mêmes et pour le bien des autres. Bien sûr, c'est aussi vrai du côté négatif. Mais cette potentialité-là, eh bien, vraiment, nous devons en prendre soin et la considérer eh bien, comme faisant partie des conditions qu'on appelle précieuses existences humaines. Alors ça, on ne va pas s'étendre là-dessus parce que vraiment, on en a déjà parlé, hein, mais appréciez, quoi. Appréciez toutes vos qualités et puis faites une psychanalyse si franchement vous n'en voyez aucune. Allez-y. Mais qu'elles émergent, quoi. Soyez sûr qu'il n'y a pas que des défauts chez vous, mais qu'il y a aussi plein de qualités. Et alors faites-le et peu importe si vous vous dites « Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas de l'orgueil ?» Oh là là, balayez ça et franchement, mais appréciez d'être généreux, apprécier d'être chaleureux, apprécier d'être amicaux, affectueux, etc. quoi. Mais allez-y, là aussi, faites un listing, quoi, si ça ne va pas. Mais découvrez votre potentiel, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire pour aider les autres? On est dans le Mahayana, hein, on est dans l'attitude du Bodhisattva. Qu'est-ce que vous voulez aider les autres si vous n'êtes pas sûr d'avoir ce potentiel, de leur offrir quelque chose, de les aider? Donc il faut commencer par le commencement. Je veux bien être un bodhisattva, mais qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres? Ma colère, ma médiocrité S'il n'y a que ça que vous pouvez offrir, faites autre chose que d'être un bodhisattva. En parlant du bodhisattva, le Karmapa à Genève a rappelé en fait ce qu'il avait déjà rappelé à plusieurs reprises à Berlin l'année dernière. Il a moins insisté cette fois-ci à Genève, mais il l'a redit quand même que le bonheur tel qu'on le conçoit, ce qu'on appelle le bonheur, lui, ce bonheur-là, s'est arrêté à l'âge de 7 ans, date à laquelle il a été intronisé Karmapa. Et à Berlin, il avait beaucoup insisté en disant « Depuis l'âge de 7 ans, je dois manger comme... en tant que Karmapa, je suis Karmapa quand je dors, je suis Karmapa quand je marche, etc. » Et vraiment, ça avait l'air assez lourd, quoi. Mais là, il faut voir un enseignement là-dedans. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer en nous disant cela? Il n'a plus cette forme de bonheur que nous avons, qui consiste à faire ce qui nous plaît. Avoir notre plaisir personnel, nos désirs personnels. Lui, il ne peut plus vivre ça. Mais il avait rajouté quand même à Berlin que ce qui le rendait heureux, c'était en fait d'être Karmapa. C'est-à-dire, en fait, d'être un bodhisattva. Il avait dit, tant que la fonction de karmapa, si la fonction de karmapa est utile aux êtres, alors là, je suis heureux. Et c'est ça, son enseignement. C'est-à-dire, il nous montre ce qu'est un bodhisattva. Le bodhisattva, c'est celui qui consacre sa vie à autrui. Et peu importe si c'est au détriment, eh bien, de son plaisir personnel. Donc là, on peut vraiment dire que il est véritablement un karmapa, parce que ça fait bientôt 30 ans hein, que eh bien, son plaisir personnel, apparemment, il est loin derrière lui. Quoi. Rinpoche continue en disant « Si nous ne comprenons pas la valeur de notre existence, nous pouvons facilement la gâcher en nous sentant incompétents et découragés. » Et écoutez ce qu'il dit « Le manque de confiance est un gâchis total. » C'est Rinpoche qui le dit. Hein. « Le manque de confiance est un gâchis total. » C'est la même chose en ce qui concerne la quête de sensations fortes, de plaisirs éphémères. Nous pouvons en profiter pour un temps, mais finalement cela passera, nous laissant insatisfaits et plus malheureux qu'auparavant. C'est aussi une poursuite vaine, puisque ça n'apporte aucun bienfait durable. Nous devrions donc utiliser cette vie pour faire quelque chose qui a réellement du sens à long terme. À long terme. Alors, il prend une anecdote en tant que Tibétain. Il dit « Les êtres humains sont capables de tant d'efforts, même dans les petites choses. Des gens passent leur vie à essayer de mesurer la hauteur des montagnes ou la profondeur de la mer. Ceci fournit des informations utiles, mais à long terme, elles peuvent ne pas être si significatives. Par exemple, nous, les Tibétains, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi des gens grimpaient sur des montagnes sans raison. Les montagnards disaient « Je fais une expédition sur le mont Everest ». Comme si c'était la chose la plus importante au monde. Ils y investissaient tellement de temps et d'argent. Parfois, ils risquaient et perdaient leur vie. Nous nous demandions s'ils étaient fous et les interrogions. Que gagnez-vous quand vous atteignez le sommet? Ils répondaient, ah, c'est simplement merveilleux. Et nous disions, mais qu'y a-t-il de si merveilleux dans ce vent et dans ce froid? Et la réponse était, ah, c'est tellement excitant. Ça peut sembler merveilleux, mais ça ne dure qu'un court moment. Et ce n'est merveilleux que si vous le considérez comme tel. Quelqu'un d'autre pourrait penser que la chose la plus merveilleuse est d'être blotti au chaud dans un lit, bien douillet et confortable. Pour moi, par exemple, c'est bien plus merveilleux, dit Rinpoche. Voilà, donc en voyant comment les gens sont prêts à risquer leur vie pour des buts mineurs, quand nous nous apercevons qu'il y a un moyen de nous transformer totalement et de surmonter la souffrance de l'existence samsarique, nous devrions vraiment faire de notre mieux pour l'accomplir. Et alors ensuite, Rinpoche développe la suite. Nous, ainsi que tous les êtres sensibles, devrions traverser l'océan de l'existence cyclique. Dans ce but, nous devrions écouter, réfléchir et méditer jour et nuit. Voilà, le premier travail du Bodhisattva, c'est écouter, réfléchir et méditer. L'écoute, c'est connaître, découvrir davantage le Dharma. Sitou Rinpoche, lors d'un séminaire à Bodh Gaya, là, il y a quelques mois, a dit qu'il fallait absolument étudier. C'était un séminaire pour les Occidentaux. Il y a deux personnes que je connais qui y étaient, et l'une d'elles m'a raconté ça. Sitou Rinpoche leur a dit, c'est vous, les Occidentaux, qui, dans les prochaines décennies, transmettrez le Dharma. Vous devez vous sentir responsable de la transmission du Dharma. Et pas seulement les lamas, hein, tous. Tous qui pratiquez le Dharma, vous devez vous sentir responsable de la transmission du Dharma. Et Khandrung Rinpoche à Paris a vraiment mis en garde le mouvement qui est en train de se développer à vitesse grand V en Occident, le mindfulness. Elle dit c'est très bien d'apprendre à méditer à ceux qui veulent apprendre à méditer, mais ce n'est pas le dharma. Le dharma, ce n'est pas seulement la méditation de chiné, quoi. Alors c'est très bien que dans les hôpitaux, on puisse méditer beaucoup plus facilement, ça permet effectivement d'aborder la situation de notre maladie de façon moins stressante, plus calme, et ça c'est vraiment très positif. Méditer dans les entreprises, ça peut être très positif, mais est-ce que la motivation est vraiment qu'il y ait moins de stress dans les entreprises? Et s'il y a moins de stress, pourquoi y a-t-il besoin de moins de stress? Peut-être que la motivation est moins claire. Mais, pardon? Oui, voilà, c'est peut-être pour qu'on soit plus productif, etc. Bon, ça, à étudier. Mais en tout cas, elle disait, attention, parce qu'il y a des centres en Occident qui commencent à élaguer dans le dharma et qui font de la mindfulness seulement, quoi. Et pourquoi? Parce que ça attire beaucoup de gens. Donc, tiroir caisse pour les centres, une fois de plus, quoi. Et on ne peut pas résumer le dharma à ça, quoi. Elle a dit, ça c'est... Alors, on prend un morceau du dharma, et puis le reste, on laisse tomber. Ben non. Si on est pratiquant du dharma, il faut prendre tout le dharma. Hein. Il faut faire le chemin avec tout le dharma. Il y a l'éthique, il y a l'éthique du bodhisattva, il y a la méditation, mais il y a l'action, il y a l'étude, il y a la réflexion, etc. Donc ça, il faut être conscient de ça. Et dans l'étude, oui, Sitho Rinpoche insistait, paraît-il, pour qu'on étudie un peu plus des textes, quoi. Et c'est un problème aussi un peu en Occident. Il y a plus loin, Rinpoche le dit. Il dit, bien sûr que l'étude, il faut dépasser le savoir intellectuel. Il faut aller plus loin. Mais il faut ce savoir-là. Il faut associer l'étude avec la pratique. Et nous, les Occidentaux, on va mettre l'accent sur la pratique au détriment de l'étude. Hein? Alors, Rinpoche qui explique un peu ça. Écouter veut dire étudier les enseignements écrits dans le passé et les instructions reçues à présent. De cette manière, nous pouvons apprendre à partir des expériences authentiques des autres. Nous devons chercher en nous-mêmes, avec l'esprit ouvert, et comparer nos expériences à celles d'autrui. Ce faisant, nous recevrons toutes sortes d'informations qu'il nous faudra traiter intérieurement. Ça, c'est l'étape de la réflexion. Alors, cette étape de la réflexion, elle est très importante en Occident. Parce que jusqu'à présent, enfin en gros pendant une trentaine d'années, on a fait du copier-coller. C'est-à-dire que tout ce qui était tibétain, pouf, on le prenait et on essayait de le vivre comme un tibétain. Je suis désolé, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas, ça ne transforme en rien notre esprit. Il faut intégrer le dharma. Intégrer le dharma par le biais de la réflexion. Et cette réflexion, elle doit nous amener à intégrer l'enseignement qui nous paraît valable en fonction de tout ce qui nous constitue en tant que personne occidentale. Qu'on le veuille ou non, nous avons une culture judéo-chrétienne. Ben, il va falloir un jour tenir compte de ça, quoi. Nous vivons dans cette culture et nous sommes imprégnés de cette culture. Notre culpabilité, elle vient d'où? Vous voulez me dire? Eh bien, il va falloir faire avec cette culpabilité et intégrer le dharma par rapport à cette culpabilité. Et ainsi de suite. Nous avons une éducation qui est différente de l'éducation des Tibétains, avec des valeurs qui sont différentes. Nous avons une structure psychologique qui est différente aussi. Eh bien, nous devons tenir compte de tout cela. Ça fait partie de la réflexion. Pendant des années, nous ne nous sommes pas souciés de ça. On faisait comme les Tibétains faisaient. Il y a bien une partie de nous qui était frustrée parce que cette partie-là, sentait qu'on ne prenait pas soin d'elle et que le dharma n'arrivait pas jusqu'à travailler sur ces différentes constituantes. Donc ça, c'est vraiment la réflexion. Mais après la réflexion, il faut vraiment passer à la méditation, c'est-à-dire cette compréhension que j'ai de cela, cette intégration que je peux percevoir, je dois absolument m'entraîner à la mettre en pratique, encore, encore et encore. Et ça, c'est la méditation. Il faut s'entraîner sur notre coussin, mais il faut s'entraîner aussi dans notre vie quotidienne à chaque instant. S'il n'y a pas ces trois étapes, il n'y aura pas transformation de l'esprit. Regardez le savoir intellectuel. On est bon pour ça en Occident, hein, puisque les Tibétains, dans leur méthode pédagogique, quand ils démontrent quelque chose, ils le démontrent toujours par des exemples, mais il leur en faut au moins 4, 5 ou 6. Et alors, en Occident, au bout du deuxième exemple, on a envie de dire au lama, attends, tu peux passer au point suivant, c'est bon, on a pigé, quoi. Mais non, parce que chez les Tibétains, il faut répéter, répéter, répéter encore, au moins 4 fois, 5 fois, bien illustré par différents exemples, et alors là, d'accord, ils ont compris. Les Occidentaux, on apprend à fonctionner intellectuellement depuis tout petit. Alors, on est très fiers de cela, seulement, on va guère plus loin, quoi. Parce que quand vous voyez les philosophes aujourd'hui, qui sont capables aujourd'hui, depuis déjà plusieurs siècles, qui sont capables d'énoncer des théories extrêmement profondes, intéressantes, mais qui sont capables en même temps de vivre totalement à l'opposé de ce qu'ils énoncent, eh bien ça fait rire les Asiatiques, je peux vous dire. On est des petits singes, quoi, des petits singes savants, mais des petits singes tout court. Quand le père Rousseau, qui donne des théories sur l'éducation des enfants et qui lui a foutu ses propres enfants à l'assistance publique, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'un philosophe comme ça, quoi? Mais il faut vraiment se poser des questions. Mais attention de ne pas devenir comme cela en tant que pratiquant du dharma. C'est-à-dire avoir une très bonne connaissance intellectuelle de tel texte, etc. Et puis vivre totalement à l'opposé du dharma. Et Sitthu Rinpoche disait, vous verrez, il y aura de plus en plus de moines. Mais ils ne porteront seulement l'habit. Et ça se voit déjà, hein. Ça se voit déjà. Allez dans des monastères en Inde, vous allez voir ce qui se passe. Ils sont tous au cinéma ou au bordel le soir, au lieu d'être en méditation. Mais promis juré, je peux vous montrer où ça se passe. Mais bien sûr, en Thaïlande, le nombre de moines qui va faire la fête le soir, la nuit, etc. Puis qui le lendemain matin sont là comme ça à mendier leur nourriture. Mais évidemment, partout. Il y a la voie, et puis ceux qui la suivent. Et s'il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre, c'est bien ces deux choses-là. Hein. Tous ne sont pas comme ça. Mais il y en a qui sont comme ça. Alors vous me direz, ça a toujours été peut-être, mais rappelez-vous quand même que les temps se dégénèrent. Hein. Alors, voilà. Mais c'est à nous de préserver ça. C'est à nous de préserver ça. Et nous devons avoir cette responsabilité. Donc, dit Rinpoche, notre compréhension devrait être globale et bien enracinée afin de fournir un support ferme pour la méditation. La méditation transforme tout ce qui a été compris intellectuellement en expérience personnelle, mélange celle-ci avec tout notre être et l'intègre dans notre vie quotidienne. Il n'est pas très utile de comprendre une chose et d'en ressentir et faire une autre. C'est l'approche de beaucoup d'intellectuels. Ils peuvent avoir une connaissance intellectuelle considérable, même en ce qui concerne la méditation, mais ils ne l'intègrent pas du tout à leur vie personnelle. Et Rinpoche conclut en disant « Cette sorte de connaissance n'est que de l'information. » Ce n'est que de l'information. Donc, ça vaut ce que vaut l'information. Hein. Si nous voulons savoir exactement de quoi elle retourne, il nous faut pratiquer les enseignements et les transformer en expérience authentique. Nous devrions faire tout ce qui tend vers le but de rendre l'esprit calme et clair afin de voir directement les choses. C'est l'aspect de la méditation. Donc l'étude, la réflexion et la méditation Rinpoche dit, le premier effort du Bodhisattva est d'appliquer ces trois outils. Voilà, ça, c'est le sens de cette strophe. Alors ensuite, il développe un petit peu le point faible des centres en Occident. Alors, certains des professeurs que j'ai rencontrés en étaient venus à me dire que si quelqu'un voulait étudier sérieusement le bouddhisme, il ne devrait pas s'impliquer personnellement. Si quelqu'un devient pratiquant bouddhiste, il n'est plus objectif et n'est plus capable de l'étudier. Cette approche n'est peut-être pas complètement dénuée de vérité, mais comment le bouddhisme peut-il être véritablement compris si nous restons complètement extérieurs à lui et que nous ne voyons rien dans son enseignement qui nous concerne personnellement? Cette approche est un peu extrême. Ça, c'est l'approche qu'il y a eu à la fin 19e, début 20e en Occident. Il y avait une élite intellectuelle qui s'intéressait un peu au bouddhisme, mais qui ne le pratiquait pas du tout. Et on a vu les conclusions que ça a données. C'est-à-dire que le bouddhisme était devenu nihiliste. Ils sont tous tombés dans le panneau du nihilisme, mais parce qu'ils n'ont jamais rien réfléchi et médité sur ce qu'on appelle la vacuité. Donc pour eux, vacuité égale le néant, et ils sont tombés là-dedans. Ça, c'est typique de quelqu'un qui n'a jamais approfondi les enseignements et qui surtout ne les a pas mis en pratique. Il n'y a pas d'expérience. Alors d'autre part, il y a ceux qui veulent uniquement pratiquer et ne souhaitent pas en apprendre beaucoup à propos du bouddhisme. Dès qu'il y a un tout petit peu d'études, ils ne veulent pas participer et disent « Oh, c'est encore ce truc intellectuel ». Et Rinpoche dit « Ce genre d'attitude se rencontre dans beaucoup de centres bouddhistes ». Il y a une tendance à dire « Nous avons déjà trop d'informations, nous en sommes gavés et nous n'en avons plus besoin. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de pratiquer. » En fait, il est nécessaire à la fois d'étudier et de pratiquer. La plupart d'entre nous commencent par poser des questions et avoir des doutes. Certains individus chanceux sont capables de suivre la voie simplement avec de la dévotion et de la foi, mais ils sont assez rares. Les intellectuels, comme nous, acquièrent d'abord une compréhension correcte et alors seulement ils se mettent à pratiquer. L'étude et la méditation devraient être unies. Aucune ne devrait être favorisée aux dépens de l'autre, dit Rinpoche. C'est la voie du milieu. Il est donc important d'intégrer notre pratique du dharma dans les situations de notre vie, surtout en ce qui concerne la méditation. Sinon, la méditation est inutile, dit Rinpoche. Il utilise ce mot. Intégrer notre pratique du dharma dans les situations de notre vie, surtout en ce qui concerne la méditation. Sinon, la méditation est inutile. Et ça rejoint le dernier livre qui vient d'être traduit en français, là, je l'ai là, sur Chevaucher la tempête, c'est sur les maras. Les maras, c'est les obstacles que nous rencontrons dans notre pratique. Eh bien, c'est quand il y a un obstacle que l'on peut vraiment voir où nous en sommes dans la pratique. Et Rinpoche dit dans ce texte que si nous n'avons pas d'obstacle dans notre pratique, nous ne pratiquons pas, nous dormons. Alors soyez heureux si vous avez vraiment des obstacles. Mais il rajoute que plus on avance, plus on a de maras.
Oh mince.
Eh oui. Pourquoi? Parce que les maras, c'est les tendances de notre esprit. C'est nos habitudes, notre façon de toujours réagir de cette même façon. Dès qu'on commence à travailler sur ces maras, on entre en conflit avec ces tendances, etc. Donc on est de plus en plus en fait en conflit, entre guillemets, en confrontation en tout cas, avec bien nos tendances, voire les plus subtiles. Quand, regardez la paresse. Si nous ne pratiquons pas du tout, mais ma foi, après tout, on se laisse aller, on vit comme ça. Bon, on n'a pas de mara, mais parce qu'on est le mara à ce moment-là. On ne va pas être confronté puisqu'on est carrément la paresse. Donc tout va bien. Évidemment que ce n'est pas confortable quand on commence dans la vie spirituelle, eh bien, à prendre conscience de nos tendances et se dire, eh bien, voilà la méthode pour contrecarrer ces tendances. Il y a des jours, ça va aller, mais alors il y a des jours, ça va être plus difficile et surtout déplaisant, quoi. Donc, c'est ça, les maras. Alors ça, ce livre est vraiment intéressant parce que Rinpoche les décrit tous, les maras extérieurs, les maras intérieurs, etc. Et puis surtout, ben, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les aborde, etc. Et il y a des maras très, très subtils qui se cachent derrière la plus belle motivation au monde, quoi. Le fait de bien pratiquer, et ça peut être un énorme mara, quoi. Et ça, il expose bien tout ça, quoi. Mais nous avons besoin de savoir ça, parce que nous sommes confrontés à des obstacles dans notre pratique. Donc, il faut savoir d'abord les reconnaître, et ensuite, eh bien, comment réagir face à eux, quoi. Le point de vue du bouddhisme est que toute pratique, que ce soit l'étude, la réflexion, la méditation ou tout autre type d'entraînement est destiné à notre vie et devrait devenir partie intégrante de nos activités quotidiennes et de nos quêtes. Dans le cas contraire, notre pratique du dharma n'a aucun effet réel. Alors, en conclusion, je vous lis, c'est un petit peu long, mais je vous lis ce que dit Rinpoche parce que c'est vraiment très éclairant, quoi. L'affirmation selon laquelle nous devrions intégrer la pratique du dharma dans notre vie quotidienne pourrait sembler vouloir dire que la méditation et le reste de notre vie sont deux choses séparées. En fait, il n'en est rien. La méditation se déroule à un niveau intérieur. Et pendant que nous méditons, nous ne devenons pas une autre personne. Ou nous ne quittons pas le monde. Bien qu'en retraite, il soit possible que nous ne voyons personne. Nous sommes la même personne que nous avons toujours été, avec toutes nos pensées, nos émotions et nos réactions. La méditation permet de travailler avec nous-mêmes, dans un cadre plus calme, sans trop de perturbations extérieures. Quand des pensées ou des émotions négatives surgissent dans l'esprit, elle offre des techniques et un cadre plus favorable pour les surmonter. Nous avons une opportunité d'apprendre, dans un contexte assez protégé, comment rendre notre esprit calme et clair, à voir comment tout est réellement et comment nous réagissons habituellement. Nous pratiquons dans le but d'apprendre à surmonter tous nos problèmes. Quels que soient les résultats que nous obtenons, nous devrions autant que possible les transposer dans notre vie et les appliquer aux difficultés que nous rencontrons. Nous devons essayer de transformer notre expérience en action. C'est la véritable mise à l'épreuve de nos progrès. Si nous nous en sortons bien dans des situations difficiles, nous avons réussi. Sinon, nous avons besoin de retourner sur notre coussin. Voilà comment Rinpoche développe cette troisième strophe. Alors, il y a bien sûr la strophe qui dit: dans ce but, nous devrions écouter, réfléchir et méditer jour et nuit. Bon, on laisse pour le moment de côté la nuit. Hein, mais si déjà on arrive à méditer depuis le moment où on se réveille jusqu'au moment où on s'endort, et que veut dire à ce moment-là méditer? Parce qu'on va pas, nous ne sommes pas en retraite. Si vous allez faire une retraite, ça c'est autre chose. Mais n'étant pas en retraite, vous n'allez pas être sur votre coussin toute la journée. En retraite, vous savez quel est le critère que vous êtes un bon pratiquant, enfin, extérieurement. C'est que le coussin doit toujours rester chaud. Mais comme on dort dessus, on peut dormir la journée aussi. Hein. Ça, c'est... Voilà. Mais nous qui ne sommes pas là en retraite, que veut dire méditer tout le temps, quoi, toute la journée? Ça veut dire observer son esprit. Pour observer son esprit, c'est clair, il faut que notre esprit se regarde un peu à l'intérieur et qu'il ne soit pas toujours porté sur un élément extérieur. Donc il faut cette vigilance, mais en même temps cette motivation, cette détermination, cette décision que nous devons prendre. Et quand notre esprit observe, s'observe lui-même, là nous pouvons intervenir. Et c'est cette intervention, ce fait d'intervenir à ce moment-là pour contrecarrer une tendance, eh bien, qui va transformer peu à peu l'esprit. Encore autre chose, quand quand vous avez une tendance très forte dans votre esprit et que vous n'arrivez pas à travailler sur cette tendance, parce qu'à chaque fois qu'elle se manifeste, vous buvez le bouillon, c'est-à-dire vous vous laissez emporter par cette tendance. Alors on culpabilise un bon coup après, ensuite, bon, quand ça va mieux, eh bien on se dit, allez, il faut maintenant que je reporte ma vigilance, en sachant très bien que elle est tellement forte que de toute façon, quand elle va se repointer dans l'esprit, on va se laisser embarquer. Ça, c'est un démarrage. Hein. Ça, c'est très bien expliqué par Rinpoche. Mais à un moment donné, il faut prendre l'engagement de travailler dessus, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Les vœux, ce n'est pas réservé aux moines, quoi. Vous pouvez très bien, chez vous, tous les matins, prendre le vœu de travailler sur cette tendance que vous connaissez et à laquelle vous renoncez. Vous en avez marre de cette tendance, parce que vous voyez bien que ça fait obstacle à votre pratique. Prenez l'engagement. Vous pouvez le prendre face à votre autel, mais même si vous n'avez pas d'autel, vous vous asseyez et vous dites, ça j'en ai assez de ça, je prends le vœu aujourd'hui, seulement aujourd'hui, mais de ne pas me laisser aller à cette tendance. Puis demain vous recommencez, jusqu'à ce que cette tendance... elle soit, que sa puissance soit totalement dégonflée. Mais c'est un petit peu, on va dire, brutal comme méthode. Mais à un moment donné, il faut travailler de cette façon-là sur notre esprit. C'est quoi les protecteurs? Pourquoi les protecteurs ont des épées, des hachoirs, des... Ben oui, oui, mais ça coupe. Quand vous coupez quelque chose, vous coupez, quoi. C'est coupé. Et à un moment donné, il faut agir en makala aussi, quoi. C'est dire non. Alors, Khandrong Rinpoche, elle rappelait ça. Alors, elle disait, le problème là-dedans, eh ben, c'est qu'on veut bien le faire, mais on aime tellement notre fonctionnement. On le connaît bien. On a tellement négocié depuis des années, voire des vies avec ce comportement-là. On est devenu tellement cool avec lui. Mais à un moment donné, est-ce qu'on veut guérir ou pas, quoi ? Voilà, c'est toujours cette question. Et si vraiment on décide de guérir, ben, à ça, je dis non. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein ? Mais nous avons besoin de cette détermination, de cet engagement, dès le départ. Comment vous êtes avec votre gamin ? Votre gamin, ce matin-là, ne veut pas aller à l'école. Vous commencez à négocier, à discuter avec le gamin, d'accord, mais à un moment donné, c'est, bon, écoute, ça suffit, maintenant il est l'heure, tu vas à l'école. Et vous ne négociez plus. Mais avec notre esprit, nous devons être de la même façon. L'esprit, c'est un enfant indiscipliné, qu'il faut discipliner. Si on laisse faire ce qu'il veut, votre gamin, vous imaginez, si vous l'aviez laissé faire tout ce qu'il voulait quand il était gosse et qu'il ne voulait pas aller à l'école, il serait comment ? Dans quel état il serait aujourd'hui ? Mais qu'est-ce que vous visiez quand vous agissiez en tant que parent ?
Une structure.
Ben oui, ben pour notre esprit, c'est la même chose. Ouais. Vous qui avez des gosses, pensez à votre esprit comme un enfant supplémentaire que vous devez éduquer.
Mais le plus rebelle.
Ça, il est comme il est. Mais faites avec, utilisez des méthodes, mais disciplinez-le, quoi. C'est pour sa libération. Des questions ?
Moi, j'en ai une. Bon, on se laisse tous embarquer, moi, c'est toujours très fort. Alors, ben, si je coupe, ça revient. Par contre, si je fais quelque chose d'autre, ou si je déplace, ça va mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire couper, alors, exactement ? Est-ce que déplacer, est-ce que c'est pas vraiment couper ?
Ah, c'est pas couper du tout.
Déplacer,
ce n'est pas couper du tout. C'est, vous faites autre chose. C'est-à-dire
que
vous donnez à votre esprit, eh bien, la possibilité de se porter sur autre chose. Donc, vous n'affaiblissez pas du tout la tendance.
Ah, d'accord.
À un moment donné, il faut se dire, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de plan B pour le truc.
D'accord.
Vous êtes face, et là, qu'est-ce que vous faites? Et c'est ça, c'est là, la véritable pratique, c'est là, c'est ça. Vous savez, quand, c'est pour ça qu'en retraite, les retraites sont vraiment importantes. Parce que vous n'avez pas d'échappatoire en retraite. Vous êtes confronté, bien sûr que vous pouvez dormir, ou vous pouvez vous faire un film pendant la méditation. Bon, mais alors là, on n'est plus en retraite. Mais si vraiment vous êtes en retraite, retraite, ça veut dire retrait. Se mettre en retrait par le corps, la parole et la pensée. Donc vous êtes obligé de faire face. Ah, vous pouvez criser hein, dans votre cellule. Hein. Vous pouvez taper des pieds, pleurnicher, avoir des boutons, un zona ou je ne sais pas quoi. Moi, je dis ça parce que j'ai eu un zona. Mais vous pouvez... Qui est là en face? Personne, si ce n'est vous-même. Ce n'est pas votre voisin qui va venir vous voir. Lui, il est dans le même état.
Mais ce que je comprends pas, c'est le geste intérieur, parce que bon, on coupe, mais ça revient tout de suite.
Mais bien sûr.
Alors, on continue à dire, on coupe, et puis ça revient, on coupe.
Mais je sens pas. L'esprit, c'est comme une vague. Vous avez toujours la vague qui va revenir. Mais le fait de couper, ça affaiblit quand même la vague. Alors elle va revenir, mais de moins en moins puissante. Et plus vous coupez, encore, encore et encore. Mais c'est ça le renoncement. Le renoncement, c'est ça, c'est ce travail-là. C'est dire non, je renonce. Il y a le mot non dans renoncement. Je renonce à ça. Mais pas en allant me balader ailleurs. C'est je reste en face du truc. Et je fais quoi? Eh bien oui, la patience, la persévérance... Vous avez les paramitas pour ça. Vous le faites par générosité, pour tous les êtres, pour votre lama racine, je ne sais qui. Ça fait partie de l'éthique. Vous êtes concentré. Et il y a la sagesse, puisque vous vous entraînez à ne pas saisir. Voilà. Là, vous avez les 6 paramitas comme, en fait, les outils pour faire face à tel mara. Mais à un moment donné... Il faut regarder ce qui se passe et se dire, bon, ben voilà, c'est là. Alors, il ne faut pas porter de jugement sur le fait d'avoir cette tendance, peu importe. Il faut être très objectif. Vous êtes un médecin qui analyse eh bien, tous les symptômes d'une maladie. Voilà. Mais après, ben, vous appliquez le traitement.
Puis-je ? Est-ce que le fait, par exemple, de dire... Voilà, je suis embarquée, mais au fond, j'ai peur. Est-ce que ça ne sert à rien?
J'ai peur?
Au fond, oui, parce que ça a déclenché une peur vitale.
Oui, mais ça, qui a peur à ce moment-là?
Est-ce que c'est l'ego?
Ouais. On ne fera pas l'économie de la peur et du doute et des remises en question, mais on ne fera pas cette économie-là. Vous avez une chimio demain, mais vous ne ferez pas l'économie des effets indésirables de la chimio, quoi. C'est pour ça que c'est que justement, enfin, ces temps de retraite, c'est vraiment important. C'est pour ça que, par exemple, le week-end, si on demande que ce soit en silence, mais c'est pour faire ce travail-là, et surtout, c'est pour ceux qui veulent le faire, qu'ils puissent le faire. Parce que alors, les parlottes pendant tout le week-end, alors la personne qui parle ne fait pas ce travail. Elle est dans sa distraction, c'est-à-dire il y a une pensée, eh ben, elle suit la pensée, elle l'exprime, et puis il y en a une autre, eh ben, elle suit cette pensée, et puis elle l'exprime, etc. Donc elle ne fait pas ce travail, mais en plus, elle empêche les autres qui sont là pour le faire, quoi. Et ça, à un moment donné, il faut vraiment voir que ben, ce n'est pas conforme à ce qui doit être fait. Il faut pouvoir faire ce travail. Alors, c'est pas confortable, ça, je suis bien d'accord. Mais le Bouddha n'a jamais dit que c'était facile, la voie, quoi. Il y a quand même des moments de plaisir aussi dans la voie elle-même. Hein.
Oui.
C'est pas réservé aux masos, quoi. Oui. Autre chose ? Donc normalement, Kandro Rinpoche devrait venir l'année prochaine. Mais vraiment, elle a été comme ça. Hein. Toute souriante. Hein. Mais tout le monde s'est bien ramassé. S'est bien retrouvé dans ce qu'elle disait. Quoi. Ça, c'est... Puis vous la voyez bien. Hein. Elle est toute ronde. Hein. Elle est devenue toute ronde hein, comme femme. Hein. Mais bon... Alors, est-ce que Jean, vous voudriez nous parler de ce que vous faites
Oui, bien volontiers, merci.
Bah, vous venez peut-être là, non? Qu'on vous voit un peu, parce que là-bas, on ne vous voit pas.
Je vais mettre ma chaise, parce que j'ai un problème.
Bah, voilà.
Je ne pourrais pas m'asseoir
là.
Comme vous. Voilà. Donc, je suis aumônier bouddhiste à la prison de Strasbourg. Et je suis venu vous présenter un peu cette aumônerie et vous parler aussi un petit peu en général des aumôneries bouddhistes. C'est quelque chose de relativement nouveau, tout le monde n'est peut-être pas vraiment au courant, donc c'est intéressant de faire connaître cette information. Il y a des aumôneries dans les hôpitaux, hein, c'est plus courant, vous avez sûrement déjà entendu ça. Il y en a aussi dans les armées, il y en a dans certaines écoles, et il y en a dans les prisons. Et depuis longtemps, dans les prisons, il y a les aumôniers catholiques, protestants, juifs, musulmans, parce que c'est un droit pour les détenus de pouvoir pratiquer leur culte, de pouvoir rencontrer un aumônier. Et le rôle d'un aumônier, ben, c'est l'assistance spirituelle des personnes. Et donc ça fait maintenant bientôt 6 ans que sous l'égide de l'Union bouddhiste de France, on a créé des aumôneries dans les prisons et dans les hôpitaux. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a à peu près une quinzaine d'aumôniers bouddhistes dans les hôpitaux, au niveau de l'ensemble de la France, et il y a 20 aumôniers dans les prisons. Mais il y a 191 prisons. Voilà, donc il y a encore du chemin à faire. Alors en quoi ça consiste concrètement? Donc l'assistance spirituelle, ça veut dire l'aumônier, ben, il répond à la demande d'un détenu qui souhaite rencontrer l'aumônier. Donc il fait un petit mot, ça passe par l'administration. Et moi je trouve dans mon casier les demandes des détenus qui veulent que j'aille à leur rencontre. Donc je vais les voir dans leur cellule. J'ai la clé, je peux accéder à la cellule. Ce que même les médecins qui sont dans les prisons n'ont pas. Hein, les aumôniers, comme les gardiens, ils ont la clé, ils peuvent entrer dans les cellules. Donc, pour que la communication se fasse, à l'origine, il faut que je dise quand même qu'il y a une information qui est donnée. Hein, tous les nouveaux arrivants reçoivent un petit dépliant où il y a marqué ben, les différentes aumôneries qui existent dans cette prison. Et il y a un talon à remplir si on veut rencontrer un aumônier ou si on veut s'inscrire pour le culte. Donc je vais rencontrer ces personnes. Alors c'est rare que je rencontre des vrais bouddhistes, entre guillemets. Hein. Ce sont parfois des Asiatiques qui sont venus, qui étaient déjà bouddhistes, on va dire, de par tradition familiale. Le plus souvent, ce sont des Français ou des Européens qui, du fait qu'ils sont en prison, du fait que ben, tout s'est arrêté dans leur vie, en fait, ils se posent des questions, ils s'interrogent sur leur vie, ils font un retour sur eux-mêmes, et forcément, les questions spirituelles reviennent. Ils ont peut-être déjà été pratiquants de quelque chose, d'une religion ou d'une autre. Disons que ça vient comme un besoin de s'appuyer sur quelque chose, au fond. Et ceux qui, peut-être, n'ont pas vraiment eu jusque-là une religion ou une religion qui les satisfasse, ceux qui ont entendu parler du bouddhisme, qui ont peut-être vu un reportage à la télé, ou qui ont lu un livre, ou qui ont peut-être des bouddhistes dans leur entourage, quand ils apprennent par ce dépliant qu'il existe là une aumônerie bouddhiste, bah du coup, ça leur parle, ils ont envie de connaître, et donc ils me demandent, et en général, la plupart des personnes que je vois sont des gens qui veulent débuter, hein, donc qui demandent des informations, qui demandent à savoir un petit peu c'est quoi le bouddhisme, comment ça fonctionne, etc., et comment on fait pour méditer. Donc je leur donne des instructions pour la méditation, et on se voit quelquefois, et au bout d'un certain temps, quand je sens qu'ils sont prêts, je leur propose, s'ils le souhaitent, de venir participer au culte. Alors le temps de culte, c'est là qu'on réunit un groupe de personnes qui sont dans une même démarche spirituelle. Donc il y a le culte catholique, le culte protestant, juif, musulman. Il y a aussi donc maintenant le culte bouddhiste. Et donc ça se passe dans une salle qui est neutre, hein, qui est une salle interculturelle, on va dire. Et donc chaque culte aménage la salle en fonction du culte correspondant. Non, pour le culte bouddhiste, je fais un aménagement avec des coussins, avec un petit autel. Et on dispose d'une heure, alors c'est une fois par semaine. Donc les détenus viennent petit à petit, hein, parce que dans une prison, il y a des obstacles. Hein, il y a des couloirs à traverser, des portes à franchir, etc., des contrôles. Donc ça prend un peu de temps, le temps qu'ils arrivent tous, au fur et à mesure, un peu au compte-gouttes. Donc ils parlent un petit peu de leur quotidien, ils échangent entre eux. Je leur donne un petit temps de parole, on va dire, un peu libre, comme ça, entre eux, pour créer aussi du lien. C'est une petite sangha qui se constitue. Hein. Et je leur donne aussi quelques points de repère hein, par rapport à ce qu'ils racontent de leur vécu, des émotions qu'ils ont, des doutes, des questions, de toutes sortes. Je leur donne un petit peu des points de repère où je pense que ben, la sagesse bouddhiste pourrait les aider. Donc ça débute un peu comme ça, sous cette forme d'échange, autour d'un thé, hein, tout simplement, et assis autour d'une table. Au bout d'un moment, quand tout le monde est arrivé, à ce moment-là, on passe au temps de méditation. Et donc, alors on va s'installer à un autre endroit de la salle qui a été aménagé pour la méditation. Donc les gens s'installent et on médite, on fait échiner pendant une vingtaine de minutes. Ça convient bien pour les débutants. Et une fois que ce temps est passé, on reste en place et à ce moment-là, on reprend un petit peu sur la base des échanges qu'on a eus auparavant ou sur la base peut-être de ce que je ressens un petit peu qui est dans l'air. J'entame un petit échange avec eux qui est sur un autre mode que l'échange premier qui est le temps de l'accueil. Hein. Là, il y a eu entre-temps un temps de méditation, donc ils sont beaucoup plus posés. C'est différent. Ils attendent aussi, je ressens ça, ils attendent des paroles de sagesse, ils attendent des points de repère par rapport à ce que la sagesse bouddhiste, le dharma peut leur offrir. Voilà, et après, on se quitte avec un petit temps pour aussi se dire au revoir. Voilà comment ça se passe concrètement. Alors, je voulais simplement vous raconter ça et vous dire... peut-être d'en parler autour de vous, si vous connaissez des personnes, ou si parmi vous, il y a des personnes qui se sentiraient la fibre pour ça, vous seriez les bienvenus, parce que bon, à Colmar, il y a une prison, mais il n'y a pas d'aumônerie bouddhiste. À Mulhouse, pareil, j'étais le mois dernier à Mulhouse, il y a aussi une prison, il n'y a pas d'aumônerie bouddhiste. Donc si des gens voudraient bien s'engager, ça pourrait être vraiment utile, parce que la prison, c'est un lieu de grande souffrance, hein. Les gens qui sont là ont vraiment besoin d'aide et il y a des demandes et en fait c'est surtout à partir du moment où on est là, où l'aumônerie est créée et qu'on fait connaître cela, que les gens se signalent et demandent de l'aide. Parce que tant qu'il n'y a pas un aumônier, c'est difficile. Quoique, on reçoit des lettres de détenus qui sont isolés dans des prisons de France qui demandent à voir un aumônier. Mais alors là, on ne peut pas les voir parce qu'on n'est pas agréé pour ces prisons-là. C'est que l'aumônier national qui peut alors circuler et aller dans les prisons pour rencontrer ces personnes-là qui sont isolées. Donc c'est l'occasion de dire aussi qu'on a une structure. Hein, au niveau de l'UBF, il y a ce qu'on appelle l'aumônerie bouddhiste nationale des prisons. Donc il y a un aumônier national, il y a quelques aumôniers régionaux et il y a des aumôniers locaux qui sont nommés pour une prison précise. Et donc, on est en lien, on est comme une grande équipe d'aumôniers, on échange des mails entre nous, on fait des rapports tous les mois, on relate notre pratique, et on a aussi des liens avec l'aumônier national, et on a des formations, on a des week-ends de formation assez régulières, on a aussi des groupes de parole, donc c'est assez bien structuré, il y a un vrai cadre, bouddhiste pour cet engagement. Voilà, donc on n'est pas perdu dans la nature, on n'est pas tout seul, on n'est pas isolé, hein, on est dans un cadre. Et si on veut être aumônier, on constitue un dossier, on demande une accréditation spirituelle hein, d'un maître, d'un ami spirituel, une personne qualifiée qui puisse nous appuyer dans cette pratique. On fait un dossier avec un CV, on relate un peu notre parcours spirituel, et puis... Ensuite, il y a des entretiens qui sont proposés. Et ensuite, il y a un premier agrément qui est donné par l'UBF. Et ensuite, il y a un agrément par l'administration. Donc, c'est une procédure qui prend un certain temps. faut compter en général entre 6 et 12 mois pour arriver à maturité et pour être nommé dans une prison quelque part. Alors, s'il y a des questions...
Quelqu'un qui veut faire cette démarche-là, il doit faire la demande auprès de l'UBF.
Tout à fait, oui.
Voilà, c'est auprès de l'UBF. Oui. Et qu'est-ce que ça vous impose comme contrainte? Vous y allez une fois par semaine, deux
Moi,
fois
j'y vais
par
une
mois,
fois par semaine. Ou... Alors, j'ai des collègues qui vont une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Tout D'accord. dépend de la disponibilité qu'on a. Chaque aumônier détermine son engagement. Ce qui importe, c'est la régularité. Une fois qu'on définit un rythme, une fois par semaine, une fois par mois, il faut se tenir à cette régularité parce que les détenus nous attendent. Ils prennent l'habitude, voilà, ils ont besoin qu'on vienne les voir et ils sont très reconnaissants de notre venue. Alors il y a aussi des auxiliaires, hein, il y a la fonction d'aumônier et la fonction d'auxiliaire. La différence entre les deux, c'est que seul l'aumônier entre dans les cellules pour les entretiens individuels avec les détenus, alors que l'auxiliaire intervient uniquement au niveau du culte. Et pour qu'il y ait auxiliaire, il faut qu'il y ait déjà un aumônier en place. Hein. Donc, il fonctionne à deux. Mais il y a aussi des prisons où il y a deux aumôniers. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Hein. Tout dépend de la taille de l'établissement, des demandes qu'il peut y avoir. Après, quand on crée une aumônerie, ça démarre tout petit. Hein. Et puis, ça se développe progressivement par cette information qu'on distribue et aussi beaucoup par le bouche à oreille, en fait. Hein. Et puis, il y a toutes sortes de demandes qui sont vraiment singulières. Hein. Les détenus sont des gens très différents, qui ont des parcours très différents. Il y a des détenus qui sont déjà inscrits pour le culte catholique, qui viennent aussi au culte bouddhiste. Il m'est même arrivé que des musulmans me demandent de venir les voir pour un entretien, parce qu'ils n'étaient pas bien, parce que peut-être l'aumônier musulman aussi, il est débordé, il n'arrive pas à suivre. Hein. Il y a beaucoup de demandes. Donc, voilà, il voulait parler, il m'a dit, ben venez... Vous êtes l'aumônier bouddhiste, mais ça ne me pose pas de problème. Bon, moi, ça ne m'en posait pas non plus, donc je suis allé le voir. Voilà.
Voilà. Il y a une personne hein, où vous allez qui a pris refuge, je crois.
Tout à fait, oui. Il y en a même deux maintenant.
Il y en a deux.
Dans le cadre de cette petite sangha, il y a deux détenus qui m'ont demandé le refuge, à qui j'ai transmis le refuge. On a parlé avec Lama, on a mis les choses en place à ce niveau-là aussi. Mais... Donc ça permet.
Oui, il y a Christian Boutors, vous le connaissez, d'Épinal. Bah lui aussi a fait cette démarche d'être aumônier.
Ouais, ouais.
La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit il faut vraiment m'expliquer comment on donne le refuge parce qu'il y a une demande.
Oui, Christian, il intervient maintenant à Toul, Écrouves et Nancy.
Ouais.
Voilà, donc on fait selon la disponibilité qu'on a. Il y a aussi la distance. Hein. Par exemple, il y a un aumônier qui va sur Rochefort, Sainte et l'île de Ré. Hein. C'est 1 heure ou 2 heures de route. Hein. Donc, il ne peut pas non plus aller chaque semaine. Ça se comprend. Hein. Donc, chacun fait en fonction de ses possibilités. Alors, c'est vrai qu'il y a une majorité de gens qui sont des retraités. Hein. C'est une belle activité pour la retraite d'être aumônier bouddhiste. Mais il y a aussi des gens qui travaillent, ou qui travaillent à mi-temps, ou qui ne travaillent pas, et qui décident de consacrer du temps pour les détenus. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est vrai qu'on a une certaine représentation de la prison. Hein. Ça peut faire peur, entre guillemets, parce que c'est l'inconnu, tout simplement. Hein. Mais vous savez, en prison, les gens qui sont à l'intérieur, c'est un peu comme les gens qui sont dehors. Hein. Ils ne sont pas si différents que ça. Ils ont juste commis une faute et se sont fait attraper. Hein, voilà. Il y en a plein dehors qui font des choses qui ne se font pas attraper. Alors ceux-là, ils se sont fait attraper. Bon. Ils sont condamnés à des peines plus ou moins longues. Mais en général, la plupart mettent à profit ce temps-là où tout s'arrête, où c'est des conditions favorables en quelque sorte, hein, pour s'interroger sur sa vie, sur son parcours, et pour peut-être vouloir que les choses changent. Donc c'est bien qu'il y ait des aumôniers qui soient là pour accompagner ce changement. C'est à ça que ça sert. Et honnêtement, depuis bientôt 4 ans maintenant que je pratique cette fonction-là, à aucun moment je ne me suis senti menacé ou en danger ou inquiet. Je suis vraiment, vraiment à l'aise dans ce milieu maintenant. Et je vois que les gens que j'ai en face de moi qui m'adressent une demande d'aide, c'est vraiment des gens qui sont sincères et qui sont vraiment, j'ai envie de dire, des belles personnes, hein, tous, de belles personnes. Voilà.
Bah, bravo en tout cas pour votre engagement.
À vos dispositions, hein, si vous avez des questions, on peut en parler encore tout à l'heure, peut-être avant de se quitter. Merci de votre attention.
Merci. Merci, Jean. Merci. Avant de faire la dédicace, il faut aborder le mois de juin. Comment ça se passe? Bon, vous êtes le dernier Tchuling du mois, là. Les autres Tchuling ont opté pour que, effectivement, chacun apporte à manger et puis on grignote. Mais avant, au lieu de faire la méditation, on fait quand même un enseignement. Parce que, ils disaient, bon, ça fait un enseignement en moins dans l'année. Donc, on ne fera pas la méditation. On commencera peut-être un enseignement peut-être un petit peu plus court, mettons 45 minutes au lieu d'une heure. Voilà, et après, on grignote. Ça vous va, cette méthode? Voilà. Alors après, il faut savoir où et comment, quoi.
Si il n'y a personne, je veux bien, avec plaisir. Mais s'il y a quelqu'un qui souhaite...
Oui, c'est...
d'office.
Peut-être non, mais bien. C'est, ça va?
À quelle heure? Oui. La seule différence, c'est que je vous demanderai d'apporter tout, quoi, que chacun apporte quelque chose. Oui, contrairement à ce que je faisais tout à l'heure.
Ouais, ouais.
Voilà. Les ans arrivent.
Bah, est-ce que 19h30, c'est trop tôt?
Non.
Parce que 19h30, bon, mettons, disons jusqu'à 20h30, après on peut manger à 20h30, ça va comme ça? Ouais. On se dit comme ça alors? 19h30 chez Marie-Vonne, alors peut-être rappeler c'est combien? 14 rue de la Herse. 14 rue de la Herse, voilà.
Alors, parking un peu difficile. Oui. Donc,
il
faut un peu le prévoir.
C'est la fête de la musique.
Ouais,
c'est la fête.
Ah bon?
Ce jour-là,
on chantera.
Oui.
Ah oui.
7h30, c'est déjà marche déjà? Alors, 7h30?
Non.
Plus tard.
Oh, il s'installe.
Il s'installe.
7h30. Ouais. Non, c'est déjà commencé? Mmh. Ah oui. Ah oui.
Centre Colmar, c'est peut-être pas l'idéal.
Bon, ben, ouais. Il n'y a pas d'autre solution, de toute façon.
Ben non.
Voilà, bon, donc, voilà. On cherchera une place, puis voilà.
Je suis pas de place.
Comment?
On vient en vélo.
En vélo, oui.
Ouais, en vélo.
Donc, c'est bon?
Boulevard Saint-Pierre, en général, on trouve plus de glace. Hein. Rue de Turenne, alors, c'est exclu.
Ah oui.
C'est absolument exclu. Donc, Boulevard Saint-Pierre. Et puis, ceux qui peuvent venir avant, vous êtes les bienvenus. Hein.
Ouais.
Le jardin, il sera.
Bah, je crois. Hein,
l'après-midi. Pour tous ceux qui veulent venir plus tôt, n'hésitez pas. Hein.
Et on apporte aussi à boire.
Oui, à boire, à manger, ce que vous voulez.
À manger. Très bien.
Et puis je crois que ça s'équilibre un peu naturellement, on n'a pas besoin de dire...
Oui, on n'est pas nombreux.
En espérant des beaux temps. Ce serait quand même bien d'avoir du beau temps. Ce serait bien d'avoir du beau temps.
Ah oui, mais ça, on ne peut pas l'apporter.
Si, vous pouvez l'apporter. Si vous avez des pouvoirs.
Ça, c'est la... Attention, Mara.
J'ai un couteau, hein. Ça, c'est le premier objet que j'ai acheté. Je trouvais ça extraordinaire. Le couperet, là.
Ah, oui. le hachoir, là.
Ouais.
C'est le trigou.
Le trigou.
Trigou, ça s'appelle.
Oh, j'ai trouvé ça extraordinaire.
Très bien, on va faire la dédicace alors. Et merci Marie-Vonne alors pour l'invitation. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci.
Rapportez votre poussin.
Oui.